Merci Oana Favenek, bonne soirée et bon week-end. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du grain à moudre d'été, ce soir, à quoi bon aller dans l'espace ? Ai-je besoin de vous les traduire, ces paroles parmi les plus célèbres du siècle dernier ? C'est un petit pas pour un homme, un pas de géant pour l'humanité. Neil Armstrong, il y a 50 ans, l'astronaute américain venait de poser le pied sur le sol poudreux de la Lune, premier homme à jamais le faire.
C'est une beauté saisissante, unique. Cela ressemble au plateau désertique des États-Unis. C'est différent, mais c'est très joli.
Un homme sur la Lune, scène sidérante, diffusée en direct à la télévision dans le monde entier. Ce 20 juillet 1969 a marqué les esprits. Il est même devenu le symbole de la conquête spatiale, commencée 12 ans plus tôt avec le lancement réussi du premier satellite, Spoutnik. Conquête qui s'est depuis amplifiée, envoi de sondes de plus en plus loin, envoi de robots aussi sur Mars, sur des astéroïdes, lancement de stations habitées, construction de navettes spatiales, des dizaines de missions lancées par des pays de plus en plus nombreux. Il y a aussi le lancement de centaines de satellites, une conquête menée pour de multiples raisons, géopolitiques, scientifiques, militaires et commerciales, entre autres. Une conquête à la fois relancée ces dernières années et de plus en plus critiquée. Elle pollue, elle coûte cher, disent ces détracteurs, alors que la Terre va si mal, d'où cette question, à quoi bon encore aller dans l'espace ? Pour en parler, deux invités. Francis Rocard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes astrophysicien responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. En face de vous, Jacques Arnoux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien des sciences, théologien. Vous êtes chargé des questions éthiques au CNES.
L'homme, dans sa quête de connaissances et de progrès, est résolu et ne peut être découragé. L'exploration de l'espace se poursuivra, que l'on y participe ou non. C'est l'une des plus grandes aventures de tous les temps. Aucune nation qui veut être à la tête d'autres nations ne peut rester en dehors de cette course à l'espace. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et d'accomplir d'autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire, parce que c'est le défi que nous sommes prêts à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres.
Défi qui sera remporté, la conquête de la Lune, la conquête de l'espace commun, quête de connaissance et de progrès, quête inscrite au plus profond de nous. Voilà ce que disait John Fitzgerald Kennedy en septembre 1962. Si l'homme est allé dans l'espace, est-ce que c'est d'abord pour apprendre, Jacques Arnoux ?
C'est d'abord sans doute pour se confronter à l'inconnu. Donc effectivement pour apprendre. Mais apprendre, je le répète, ça veut dire accepter de dépasser les frontières habituelles, quotidiennes, de nos vies, de nos savoirs, de nos pratiques. Et c'est ça qui reste aujourd'hui encore extraordinaire. Le mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot d'exploration. Dans exploration, il y a le côté extérieur. Donc vous projetez dans quelque chose qui ne vous est pas propre. Et ça, c'est extraordinaire.
Francis Rocard.
Je dirais que les pionniers de l'astronautique rêvaient, Tcholskovski en Russie, Von Braun d'ailleurs aussi, lui c'était plutôt avec les V2 en Allemagne, tous ces gens-là rêvaient de partir loin, d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars. Ça c'est la vision du rêveur, même si ces gens-là étaient des ingénieurs, et cette vision on la retrouve dans le discours de Kennedy. C'est ça qui est assez fascinant, parce que le discours de Kennedy, on est un peu dans l'irrationnel. Il dit on y va parce que il y a pas de parce que. On y va parce qu'on y va.
Parce qu'on est des hommes.
Parce que c'est une, pour les Américains, ça s'appelle la nouvelle frontière. Il y a un côté totalement irrationnel dans cette démarche. Et l'homme sur Mars est exactement dans ce contexte-là.
On va y venir. Ouais.
Il n'y a pas d'explication scientifique. Mais bon, après, oui, ce qui n'est pas dit dans le discours de Kennedy, c'est que les Américains ont été humiliés par Spoutnik et Gagarine.
Il y avait une dimension géopolitique, évidemment.
Il fallait montrer qui était les meilleurs. Voilà, ça c'était. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. les Américains sont les meilleurs, c'est incontestable. Maintenant, qu'est-ce qui va être le moteur qui va poursuivre cette exploration ?
Jacques Arnoux.
Francis Rocard a raison, il y a une part d'irrationnel et en même temps, même dans le discours de Kennedy, il y a quelque chose de tout à fait rationnel et objectif. C'est lorsque, à deux reprises dans l'extrait que vous nous avez justement diffusé, il dit « et d'autres choses ». À deux reprises, on va aller sur la Lune et on va faire d'autres choses. Et ces autres choses, les exégètes des discours de Kennedy se doutent qu'il s'agit de toute la dimension militaire des satellites d'observation qui étaient en train également d'être mis en œuvre. Donc, je ne dis pas qu'il cache ces autres choses par le côté exploration, mais il y a aussi un côté tout à fait rationnel dans cette course à l'espace et avant tout à la Lune. Ça, c'est la motivation sur laquelle Kennedy est vraiment très fort.
Ce qu'on entend aussi dans le discours de Kennedy, c'est que, et je le rappelais, si on va dans l'espace, c'est parce qu'on est des hommes. Pourtant, l'homme est né sur la Terre et a priori n'avait pas vocation à en sortir, à la quitter. Mais est-ce que ça fait partie de ce que nous sommes, cette volonté d'aller explorer, puisque c'est le mot que vous utilisiez tout à l'heure, Jacques Arnoux, explorer ce qui n'est pas la Terre, Francis Rocard.
Alors, l'homme a toujours voulu explorer son monde. Les navigateurs étaient dans cette démarche, la Terra Incognita qui était au sud de l'Afrique, il fallait aller voir, il fallait y aller, et cette démarche s'est poursuivie naturellement avec l'espace. Donc oui, cette démarche est tout à fait dans l'esprit, notamment des scientifiques, quand ils veulent apprendre ce qui s'est passé sur Mars, on veut connaître Mars pour savoir quelle a été son origine, quelle a été son évolution et finalement, est-ce qu'il y a eu de la vie ? Enfin, c'est ça, les trois questions qu'on se pose sur Mars. Et donc, pour répondre à ces questions, ben, faut y aller, il faut explorer et c'est fascinant.
Jacques Arnoux.
Je dis parfois qu'explorer, pour nous les humains, c'est comme respirer. Nous explorons comme nous respirons. Imaginez un instant si vous étiez dans les grottes de Totavel, là au sud-ouest de la France, dans une de ces grottes qui a été justement explorée et étudiée par Henri de Lumley, et que vous disiez « il fait très bon dans cette vallée, on va y rester ». Si l'humanité avait fait ça dans son berceau précisément, nous ne serions pas là. C'est parce qu'il y a quand même cette espèce de question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la colline ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la mer Méditerranée, de l'océan ? Et cette propension que nous avons à la fois à être curieux et en même temps à peupler notre curiosité de monde imaginaire. C'est ce qui nous rend tellement prompt à prendre tous les moyens qu'il faut, toutes les motivations possibles et inimaginables pour explorer, pour aller voir s'il y a quelqu'un d'autre ou quelque autre chose de l'autre côté de la frontière que je connais aujourd'hui, du mur qui se dresse devant moi.
Vous qui explorez l'espace, Francis Rocard, vous qui êtes astrophysicien, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce domaine, à regarder en dehors, à ce qui est au-dessus de la Terre ?
Oh, je crois que moi j'étais un curieux de nature, donc le comment ça marche, c'était mon ADN, et donc j'étais plutôt vers la physique, et ensuite l'astrophysique est venue assez sur le tard, notamment parce que c'était fascinant, parce que il y avait un côté intellectuellement mystérieux et sublime. Dès qu'on découvre un monde, c'est-à-dire dès qu'on arrive à se poser, je pense à Titan en 2005, on se pose sur cette lune de Saturne en 2005, la première image que l'on a déjà vous dit 90% de ce que vous allez apprendre. Et c'est ça qui est fascinant, c'est vous avez une découverte à l'échelle humaine, l'image qui est prise au sol parle d'elle-même très fort et est extrêmement riche d'enseignements. Et à chaque fois, il se passe beaucoup de choses dans le système solaire, vous savez. Et donc, en ce moment, c'est plutôt Ryugu, c'est plutôt Bennu, c'est des collectes d'échantillons sur les astéroïdes. Mais quand on voit Bennu, cet astéroïde que les Américains explorent, c'est un véritable tas de cailloux. Mais quand je dis cailloux, c'est tas de rochers. Les rochers, ils font 3 mètres. Donc c'est des gros tas, c'est ce qu'on appelle un rubble pile en anglais. Et ça a été une énorme surprise, une déception, parce que ça va compliquer énormément les Américains pour aller collecter les échantillons. Quand ils font 3 mètres, vous les collectez pas.
On va venir un peu plus précisément à ces découvertes et au travail des scientifiques dans l'espace. Une dernière question sur ce que vous disiez tout à l'heure, Jacques Arnoux, sur cette essence même de notre espèce qui nous pousse à vouloir aller voir ailleurs, l'expansion qui est le propre des êtres vivants et parfois même la condition de leur survie. La survie, c'est un terme qu'on entend aussi parfois, et de plus en plus d'ailleurs, autour de l'espace. Ça en fait fantasmer certains, ça en décourage et en désespère d'autres, peut-être peut-être vous, mais est-ce qu'on va dans l'espace aussi avec en arrière-pensée notre survie? Peut-être qu'un jour nous serons amenés à quitter la Terre, donc allons voir ce qui se passe ailleurs, Jacques Arnaud.
Oui, bien sûr, l'idée de survie est quasiment associée à l'histoire moderne de l'espace, mais pour autant, il faut que nous soyons des êtres explorateurs, des êtres de curiosité, des êtres d'imagination, mais aussi des êtres de raison. Et aujourd'hui, la raison, me semble-t-il, nous pousse aussi à dire « Ok, l'espace peut-être, mais c'est pas sûr du tout en termes de possibilités techniques, en termes de calendrier. » Et aujourd'hui, la survie, c'est bien sur cette planète que nous devons la construire, l'élaborer. Ça commence là. Il faut garder un œil vers les étoiles, vers les planètes, vers l'exploration, parce que ça appartient à notre essence, à notre dynamisme. Mais nous ne sommes pas, une fois encore, je me répète, que des explorateurs, nous sommes aussi des êtres de raison et des terriens, et sans doute pour encore un bout de temps. Alors, gardons les pieds sur Terre aussi.
Non, m'indique de la main Francis Rocard.
Oui, moi je suis très, comment dire, je suis assez opposé à ce discours qui est celui d'Elon Musk. Parce que ce discours, il est proche du discours des climato-sceptiques. Il est de dire, regardez, moi, Elon Musk, je vais vous construire une base sur Mars, et vous, sous-entendu ceux qui ont l'argent, vous pourrez y aller. Et donc, vous inquiétez pas, sur Terre, on a trouvé un plan B. Je trouve ça absolument désastreux comme discours, parce que ça incite à continuer à polluer la planète, et à continuer à l'exploiter, et puis ensuite, les happy few iront sur Mars. Je pense que c'est un discours qui, pour moi, est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, le terme de colonisation est un terme qui est banni au CNES parce que c'est absolument irréaliste. On parle d'exploration pour des raisons qui peuvent être scientifiques ou autres. Mais la colonisation n'a strictement aucun sens. On ne va pas coloniser Mars ni même la Lune.
Mars, Elon Musk en parle, vous en parliez aussi, la Lune, le patron de Tesla et de SpaceX en a parlé, en parle récemment, c'est l'un de ses souhaits de retourner sur la Lune, lui qui construit et qui envoie aussi avec son entreprise spatiale SpaceX des fusées depuis quelques années.
Je suis impatient à l'idée de ce lancement, car je pense que cela va démontrer que nous pouvons de nouveau construire des fusées de grande envergure. La plupart des institutions spatiales, étatiques ou industrielles, n'ont pas visé assez haut. La Falcon Heavy est probablement la première fusée que l'on peut classer dans la catégorie ultra-lourde, ou entre lourde et ultra-lourde, et qui peut prouver que nous pouvons lancer une fusée de cette taille et la rendre viable économiquement, lui faire transporter des satellites, voire même des gens. La Falcon Heavy est même capable d'emmener des gens autour de la Lune.
Voilà, objectif Lune pour Elon Musk avec cette fusée, donc la Falcon Heavy, qui permet aussi d'envoyer des satellites. Est-ce que ça a un intérêt, Francis Rocard, de retourner sur la Lune aujourd'hui, ou peut-être même d'aller sur Mars dans quelques années?
Alors, en fait, il faut un peu distinguer les deux grandes nations qui aujourd'hui retournent sur la Lune. À ma gauche, les États-Unis, à ma droite, les Chinois. Les États-Unis, c'est une démarche. J'ai décidé, moi, la NASA, de faire un choix stratégique majeur, sachant que mon objectif à long terme, c'est Mars, c'est pas la Lune. Par contre, j'ai besoin d'étapes intermédiaires pour développer mes véhicules lourds, pour emmener des charges lourdes en orbite autour de la Lune, pour apprendre à opérer à 400 000 km, c'est pas la même chose qu'à 400 km, et pour étaler dans le temps les dépenses, parce que le Congrès n'acceptera pas. Je vais vous prendre l'exemple de Apollo. En 61, la NASA est à 500 millions de dollars. 4 ans plus tard, on est à 25 milliards. Vous imaginez, multiplié par 50. La NASA est parfaitement convaincue que son budget actuel étant de 20 milliards, elle ne peut pas espérer une augmentation, même pas d'un facteur 2. Donc il faut étaler dans le temps les dépenses, pour que ça soit sustainable. Les Américains disent sustainable, c'est-à-dire il faut que le Congrès accepte.
Qu'on puisse le supporter, que les coûts puissent être supportés.
Voilà, n'oubliez pas le budget fédéral américain, le fort déficit du budget fédéral américain. Il y a quand même un petit souci là-bas.
Et qui se creuse.
Donc il faut des étapes. Et cette étape, elle est technologique, stratégique, et c'est la NASA qui l'a choisie. Mais c'est Mars l'objectif. Et Mars 2050, hein, pas 2030, 2040, 2050, ça dépend ce qu'on entend par mission vers Mars. Ça, c'est la stratégie américaine. La stratégie chinoise, c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 70 avec les Soviétiques et les Américains. Vous avez un pays qui, il y a 10 ans, n'avait rien fait en exploration planétaire, zéro, la Chine. Et puis qui a une volonté très forte de faire. La Lune est le, j'appelle ça le terrain de jeu, mais c'est la cible idéale pour tout apprendre. Vous savez que vous posez sur la Lune, c'est très compliqué. La trajectoire interplanétaire, l'insertion en orbite, la descente pilotée automatique, tout ça, c'est très pointu. Si vous maîtrisez ça, le reste, vous pourrez le faire derrière, aller sur Mars. Donc les Chinois ont un programme lunaire très ambitieux, systématique, Chang'e 1, 2, 3, 4, puis 5, 6, 7, 8, puis il y aura une suite, et puis il y aura des hommes sur la Lune en 2036. Ça, c'est la stratégie chinoise, elle est indépendante de la stratégie américaine, mais les Chinois mènent leur affaire avec détermination.
Mais rapidement, est-ce qu'il y a un intérêt scientifique à retourner sur la Lune et éventuellement à aller sur Mars ?
C'est pas l'objet ni des Américains, ni des Chinois.
Donc c'est quoi ? C'est un objectif de
Je vous l'ai expliqué. Les Chinois, les Américains, c'est pour développer les technologies qui vont permettre d'aller sur Mars. Et Mars n'est pas non plus un objectif scientifique pour l'homme. C'est là où l'affaire se complique un peu. Bah c'est là où on tombe dans l'irrationnel. J'ai lu un rapport, il y a 20 pages d'explication sur le sujet. Donc, à la fin, la conclusion, c'est que c'est la nouvelle frontière. Les Américains, qui sont leaders mondiaux en matière spatiale, toute thématique confondue, se doivent, au XXIe siècle, d'envoyer l'homme sur Mars. S'ils ne le font pas, à un moment, les Chinois vont le faire à leur place. Mmh. Ça, pour eux, c'est inacceptable. Donc, si vous, keep the momentum, si vous ne faites pas ça, tout va s'arrêter. Les vols habités américains. Mmh. Or, les États-Unis sont dans un schéma de dépenser 10 milliards par an sur les vols habités. C'est unique au monde. L'Europe, c'est 15 fois moins. Donc, si vous voulez maintenir ce niveau de développement, il vous faut un objectif. Et l'objectif, c'est l'homme sur Mars. Mmh. Voilà, tout est dit. Après, comment on y va ? On y va par des processus et des chemins un peu détournés.
Jacques Arnoux.
Oui, pour aller vraiment dans le sens de Francis Rocard. Il y a une dizaine d'années, donc, avant cette étape qui était décrite avec l'entrée en scène, en quelque sorte, des Chinois dans l'exploration. Donc, il y a une bonne dizaine d'années, un rapport avait été demandé par le président Obama sur la situation des vols habités aux États-Unis. Mmh. Et la conséquence de ce rapport, ça a été justement l'annulation du programme de retour, à l'époque, le programme de retour déjà sur la Lune. Et l'une des explications, mais presque théoriques, et qui c'est pour ça que je fais mention de ce rapport, c'était de bien distinguer la destination et l'objectif. Et je trouve que c'est une distinction qui est très pertinente dans nos domaines spatiaux, parce que des destinations magnifiques, on en a plein. La Lune, Mars, vous imaginez, enfin c'est mieux que toutes les destinations touristiques sur Terre. Mais pour y faire quoi ? Et à l'époque,
oui, c'est la question.
Et à l'époque justement, il n'y avait pas d'objectif suffisamment clair pour justifier le fait de retourner sur la Lune. Il n'y avait pas ces Chinois qui sont devenus entre-temps, et Francis nous l'a expliqué, une bonne raison d'y retourner. Donc aujourd'hui, comme nous l'avons entendu, c'est de garder la priorité et la suprématie devant les Chinois qui devient un objectif de retourner sur la Lune. Donc la destination est aussi associée à un objectif. Et ça, je crois que, là, je parle un peu avec ma casquette d'éthicien du CNES, c'est quelque chose d'important, de toujours s'interroger sur quelle est la finalité de ce que nous entreprenons. À l'époque, il n'y avait pas de finalité, donc il va mieux ne pas y aller. C'était dépenser des milliards déjà, ou se préparer à dépenser des milliards sans intérêt. Alors que là, on peut ensuite discuter sur la valeur de cet objectif, mais là, il y a un objectif.
Ces vols, quand ils auront lieu, permettront-ils d'améliorer les connaissances qu'on a aujourd'hui de l'espace, Francis Rocard ?
Alors, oui, bien sûr. Au même titre que Apollo, qui n'avait pas de vocation scientifique, a totalement révolutionné l'histoire de la Lune et sa formation, grâce aux échantillons lunaires. Et vous savez, quand Armstrong descend les échelles, la première chose qu'il doit faire, c'est de s'en mettre un dans les poches. Mmh. Un caillou. Au cas où il faut revenir, ce qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Mmh. Mais bon, peu importe, il l'a fait plus tard. Mais cet objectif, il est arrivé bien après. Le programme était décidé, Kennedy n'en parle absolument pas, c'est pas la science. Vous avez bien compris que c'était de battre les Soviétiques.
L'objectif initial d'Apollo, c'était pas un objectif scientifique.
Voilà. Et l'homme sur Mars, c'est pareil. L'homme sur Mars, c'est pas un objectif scientifique. C'est ça qu'il va falloir comprendre aussi, c'est que ça n'a rien à voir avec la science. Mais par contre, à partir du moment où les hommes arrivent, on va leur trouver les choses les plus intelligentes à faire, compte tenu de leur propre intelligence. Ils ont un cerveau, ce que n'a pas le robot, donc ils sont plus malins qu'un robot, et ils vont pouvoir... Moi, j'aime bien citer cet exemple. Quand je vais sur le Cosmégean dans les Cévennes, je cherche des fossiles. Vous n'imaginez pas ce que fait votre cerveau pour trouver un fossile quand vous regardez 10 000 cailloux. Il faut trouver celui qui a une forme bizarre. Le robot a beaucoup de mal à le faire. Le cerveau humain le fait beaucoup mieux.
Est-ce que le cerveau humain fonctionne de la même manière sur Terre et dans l'espace, en apesanteur, et sur la Lune, par exemple, puisque c'est la seule...
Oui et non. On sait que c'est pas très correct ce que je vais dire, mais on sait que les astronautes deviennent un peu bêtes là-haut.
Ils deviennent embêtants.
Non, ça veut dire que leur faculté cognitive est un peu réduite. Ça a été dit tardivement, mais c'est maintenant parfaitement reconnu. Ça vient probablement d'un effet de la pesanteur qui comprime le cerveau, et ils sont un peu moins performants. Néanmoins, ils font des choses extraordinaires. Neil Armstrong a piloté l'atterrissage, il n'y a eu aucun problème. Mais on se rend compte, surtout avec les vols à longue durée dans l'ISS, que vous faites des tests sur Terre et vous faites des tests là-haut, c'est un peu moins bon là-haut.
Jacques Arnoux, sur cette question.
Ça veut peut-être vouloir dire que, je répète ce que je disais précédemment, que nous sommes, nous les humains, encore des terriens pour un long moment, parce que aller vivre ne serait-ce que quelques mois, c'est ce qui peut déjà être long, mais en apesanteur, ce n'est qu'un des facteurs de l'espace. Il y en a plein d'autres que Francis connaît mieux que moi, mais qui peuvent aussi être un peu compliqués pour nous humains. Donc il faudra encore beaucoup d'apprentissage. Cela fait aussi partie de la raison de voisiner la Lune avant d'aller plus loin, de continuer à apprendre à vivre dans des conditions pour lesquelles nous ne sommes absolument pas faits. Et ça, c'est une question intéressante, parce qu'elle elle turlupinait déjà un philosophe dans les années 60. Il se demandait, mais est-ce que, avec ses mots à lui, est-ce que le ciel nous est ouvert à nous humains? Est-ce que vraiment c'est fait pour nous? Et bon, alors évidemment, il était philosophe, il n'était ni physicien, ni médecin, ni ingénieur. Et sa conclusion, c'était au fond, voilà, une occasion, une invitation à nous poser des questions sur nous-mêmes. C'est-à-dire que nous allons explorer, mais ce que nous allons aussi connaître, c'est d'abord nous-mêmes.
Encore une question avant de poursuivre et d'aller plus loin dans cette émission, Francis Rocard. On a entendu Elon Musk tout à l'heure, patron de SpaceX, je l'ai dit. Est-ce que l'apparition de ces entreprises privées, et pas n'importe lesquelles, il y a aussi Blue Origin, je crois, qui est celle de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, l'arrivée de ces grosses entreprises dans le monde de l'espace et dans le monde spatial a changé la donne, a changé les choses?
Alors oui. Oui, depuis 10 ans, essentiellement avec SpaceX, et en plus les relations entre la NASA, qui est le plus grand pourvoyeur de fonds, ne croyez pas que ces entreprises investissent sur fonds privés. Peu. SpaceX a reçu 7 milliards de dollars de contrats NASA.
De fonds publics.
Ouais. Donc voilà, il faut quand même relativiser les choses. Mais qu'est-ce qui fait Elon Musk? Il dit, regardez, moi je peux être intéressant à la NASA, on peut faire du win-win. Vous allez me passer un premier contrat, et je vais vous démontrer que je peux vous baisser les coûts de lancement. La NASA est convaincue, ça a été un contrat de 500 millions, derrière elle a mis 2-3 milliards, et Falcon 9 est arrivé. Et oui, les coûts de lancement baissent. Et la NASA est très intéressée que les coûts de lancement baissent. Après, Elon Musk essaie de le refaire avec son Falcon Heavy. Là, je dirais que le Falcon Heavy, il est moins dédié. Il faut savoir que, excusez-moi, je fais une petite digression, il faut savoir que l'essentiel des lancements, ce sont des lancements de télécommunications en orbite géostationnaire, voire en orbite basse pour l'Internet.
Des satellites, oui.
Un Falcon Heavy, il n'est pas complètement adapté à ça. Le Falcon 9, il est très adapté. Ariane 6 est très adapté à ça. D'ailleurs, on dimensionne les lanceurs pour ce type de lancement qui représente 80% des lancements. Donc, le Falcon Heavy, il est surtout orienté pour les charges lourdes. Et donc, est-ce que la NASA va être intéressée à investir dans le Falcon Heavy? En fait, il existe déjà. Elle va le faire. Elle va le faire parce qu'elle sait qu'un Falcon Heavy va lui coûter beaucoup moins cher que sa Saturn V du 21e siècle, qu'on appelle le SLS, qu'on va voir l'année prochaine. Énorme fusée de 110 mètres de haut, capable d'envoyer 130 tonnes en orbite basse, qui est nécessaire à l'homme, que ce soit sur la Lune et Mars. Mais Elon Musk, pour terminer rapidement, il a son BFR, son Big Falcon Rocket. Ça, c'est une énorme fusée. Et il dit, moi, avec ça, j'envoie des hommes sur Mars. Le problème, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que la NASA finance son BFR. Mais la NASA, elle finance le SLS. Elle a déjà dépensé 37 milliards. Qu'est-ce que va faire la NASA? À mon avis, elle lui dira, oula, 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 oula. Moi, j'ai mon SLS, je vais pas me tirer une balle dans le pied. Donc, le BFR, c'est pas ma priorité. Et ce BFR n'existera pas.
Jacques Arnoux.
Ce en quoi ces nouveaux acteurs, donc qu'on appelle les acteurs du New Space, ont s'est bousculé tout le paysage, à travers ce que Francis vient nous expliquer, et puis aussi à cette capacité qu'ont ces personnages, en particulier Elon Musk ou Jeff Bezos à sa mesure, de nous raconter une histoire. Or, vous voyez, leur apparition correspond à peu près et contemporaine de la disparition des dernières navettes américaines, donc tout un aspect de pan de l'histoire où, justement, il n'y a plus vraiment d'histoire à raconter, une espèce de vide, et là, ils arrivent, ils racontent ce que vous nous avez rappelé. On va aller sur Mars, ça va assurer la survie de l'humanité, etc., etc. Donc une histoire avec en plus quelques éléments techniques. On fait des fusées, elles reviennent sur Terre, il y a de belles images. Et ça aussi, ça a changé l'horizon spatial, où en particulier auprès des plus jeunes générations, on voit bien, il y a un engouement et on le comprend parfaitement. Ces histoires ne sont plus racontées par la NASA ou les agences spatiales habituelles, ce sont d'autres acteurs qui arrivent et qui nous les racontent. Alors pourquoi ne pas y croire ?
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
À quoi bon aller dans l'espace? C'est la question du grain à moudre d'été. Ce soir, nous en parlons avec nos deux invités, l'astrophysicien Francis Rocard et l'historien des sciences et théologien Jacques Arnoux. Prenons un peu de champ, parce que dans l'espace, on y va aussi pour connaître ce qui entoure la Terre, à commencer par le système solaire. Et je me tourne vers vous, Francis Rocard, parce que c'est votre domaine d'expertise. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce système aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Je dirais qu'on a clos une première page de l'histoire d'exploration du système solaire avec le survol de Pluton. Donc tous les objets, Pluton était une planète, bon, n'est plus une planète, mais néanmoins, c'était une planète. Donc on a survolé toutes ces planètes, c'est déjà bien. Et par les survols, je pense qu'à Voyager 2, qui est une mission extraordinaire, qui continue d'ailleurs, elle a survolé Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc on a quatre planètes géantes avec un petit satellite de 500 kilos. Le retour scientifique de Voyager 2 est fabuleux. Et depuis, on y est retourné. Mais donc voilà, on a clos ce premier chapitre et maintenant on va s'attaquer à des missions plus ambitieuses. Les survols, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est logique de commencer par ça. Après, on se met en orbite, après on se pose. Et donc, il s'agit maintenant d'aller voir des objets. Il y a un intérêt qui vient depuis 20 ans, qui est nouveau. Je dirais, en planétologie, avant, les deux mots-clés, c'était formation-évolution. Voilà, on s'intéresse à la formation et l'évolution du système solaire. Il y a un troisième mot-clé qui arrive, c'est la vie, qui devient prépondérant. Ça date de 20 ans. Avant,
c'est ce qu'on cherche maintenant, hein.
Il y a beaucoup de focalisation sur la problématique de la vie. Mars, évidemment, mais les lunes glacées, Europe, Ganymède, et puis également Célade et Titan. Donc, il y a des missions européennes et américaines vers Ganymède et Europe. Et donc, on va faire vers ces lunes glacées ce qu'on a fait sur Mars. L'année prochaine, on va fêter la 50e mission. Donc, il y a du chemin. Il y a du chemin, et chaque fois qu'on va vers Europe, ça met 5 ou 6 ans. Donc voilà, ça va être beaucoup plus long.
Le fait qu'on recherche de la vie dans le système solaire, et peut-être même dans quelques dizaines, centaines, milliers d'années en dehors de ce système, quelles sont les questions que ça pose, Jacques Arnoux ?
Bien, d'abord, pour compléter ce que nous disions tout à l'heure, à nous observer, je pense que la question même de la vie, de son origine, donc autrement dit, d'où nous venons, comment nous en sommes arrivés ici, et peut-être qu'est-ce que nous serons demain, j'ai souvent tendance à l'associer à l'idée même d'exploration. Au fond, est-ce que dans toute forme d'exploration, il n'y a pas quelque chose qui a un lien avec cette quête, cette question de l'existence, et là, en l'occurrence, cette question de la vie. Alors, bien évidemment, avec le début de l'exploration spatiale, de la conquête spatiale, comme vous disiez au début de cette émission, la recherche d'une vie ailleurs a pris un tour tout à fait particulier, à la fois technologique et scientifique. Désormais, on parle d'exobiologie, d'astrobiologie. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est une question qui est presque aussi ancienne que notre humanité. Et que si on en croit, et il n'y a pas de raison de ne pas le croire, les écrits des philosophes d'il y a plus de 2000 ans ou 2500 ans, c'était déjà une question de savoir, ok, la vie sur Terre, on la connaît, nous en faisons partie, mais de la vie ailleurs. Et la simple question de l'existence possible, hypothétique, d'une vie ailleurs, et déjà peut déjà entraîner à pas mal d'interrogations sur qui sommes-nous. Si nous ne sommes pas seuls, si nous ne sommes pas uniques, si nous ne sommes pas singuliers, qui sont les autres, quels peuvent être, même de manière très différée, quelles peuvent être les relations que nous entretenons avec eux.
Pour nos auditeurs qui ne suivent pas forcément l'actualité de manière très précise, l'actualité de la conquête spatiale, Francis Rocard, qu'est-ce qu'on sait justement aujourd'hui de l'éventualité d'apparition ou de la vie sur Mars ou les objets célestes dont vous parliez tout à l'heure?
Alors, je crois qu'il y a deux présupposés très forts dans cette recherche. Le premier, c'est que pour avoir de la vie, il faut de l'eau en phase liquide, d'aucune atmosphère, ou quelque chose qui vient par-dessus. Je pense aux océans gelés sous les croûtes de glace. Et deuxième présupposé, on ne conçoit pas la vie aujourd'hui sans le carbone. Donc on cherche l'eau liquide, le carbone. De l'eau liquide, on a trouvé beaucoup sur Mars. Pas aujourd'hui, mais on a des traces d'eau, etc. Donc là où Viking en 76 a conclu que Mars était stérile en surface, là, ça, personne ne le conteste. Mars est stérile en surface aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Mars est stérile à l'intérieur, mais on ne sait pas y aller. Il faudrait creuser 4 km aujourd'hui. Voilà un job super pour l'homme sur Mars. Creuser 4 km avec un vrai derrick, avec des gens qui contrôlent le forage. Bon. Et donc, toute la recherche de la vie sur Mars s'est décalée sur la recherche de vie ancienne. Il y a 3,5 4 milliards d'années. C'est pour ça qu'on va sur les strates d'argile. Les strates d'argile ont 3,5 4 milliards d'années. À l'époque où Mars était chaudé et humide, où l'eau a altéré des roches volcaniques pour fabriquer ces argiles. Et on espère que Curiosité est en train, a fait un forage dans les argiles pas plus tard qu'il y a 3 mois. On attend un peu les résultats avec impatience. Ça met un peu de temps, mais ça va sortir. Et la question, c'est est-ce qu'on va trouver des molécules organiques, voire des preuve que cette molécule, vous savez, vous avez du carbone dont on peut être sûr qu'il est d'origine biologique ou pas. C'est pas de la vie, mais on peut dire ce carbone, il est d'origine. Le rapport C12-C13 dans les isotopes est une signature, ce qu'on appelle une biosignature, ou la chiralité de certaines molécules, le fait que vos mains sont symétriques dans un miroir, est une signature du vivant. Donc on est dans cette phase-là. Et c'est pas la vie vivante qu'on va trouver, mais on espère trouver ses preuves. Et c'est, juste pour conclure, c'est l'endroit le plus simple dans l'univers où la question se pose. Si la réponse est négative sur Mars, ça sera beaucoup plus compliqué et beaucoup plus long.
À quoi bon aller dans l'espace? C'est la question qu'on se pose dans Du Grain à Moudre sur France Culture. Aller dans l'espace, ça nous permet aussi de mieux connaître la Terre. Qu'est-ce que le fait de regarder la Terre depuis l'espace a permis de comprendre ces dernières années, Francis Rocard?
Je dirais que tous les astronautes, je n'en fais pas partie, mais tous disent la même chose. Ils ont vu la Terre, ils ont vu cette petite couche qui est l'atmosphère, et ils sont devenus des ambassadeurs de la planète. Vraiment, vous pouvez tous les interviewer, ce sont des ambassadeurs en disant « protégeons notre planète ». Hubert Reeves, qui est un grand astrophysicien, ne fait plus d'astrophysique. Il est dans la biodiversité, il est dans la préservation de la Terre. Donc il est revenu complètement sur Terre aujourd'hui parce qu'il est fondamentalement convaincu que c'est ça ce qui est important. Et donc cette vision de cette petite couche qui nous protège et qui nous fait vivre est primordiale.
Et ben on va en écouter un de ces ambassadeurs, Thomas Pesquet. C'était à son retour d'une mission de 6 mois dans la Station Spatiale Internationale, l'ISS. C'était en 2017.
On voit les coupes dans les forêts, pollution de l'air au-dessus des grandes villes qu'on peut même pas photographier. Donc on voit tout ça, on voit beaucoup de beauté, mais on voit aussi les stigmates du changement climatique. On peut écrire des chiffres, 2 degrés de plus, on peut écrire des choses comme ça, mais on ne peut pas se le représenter. On ne peut pas se dire que la planète est fragile parce que nos sens ne peuvent pas nous dire ça. Il faudrait que tout le monde aille dans l'espace parce que depuis l'espace, on voit très nettement qu'elle est fragile, qu'elle est petite et qu'elle est en danger.
Aller dans l'espace, ça permet de comprendre qu'on est seul, qu'il n'y a pas de plan B, dit aussi Thomas Pesquet, qui compare la Terre à un oasis, à une petite bille bleue dans l'espace. Est-ce que cela permet d'acquérir, Jacques Arnoux, une conscience encore plus vive de ce dont on a parlé là au début de l'émission, notre singularité humaine, le fait qu'on est seul dans l'univers?
Oui, et c'est sans doute l'une des surprises de ces missions dont nous célébrons le cinquantenaire, des missions Apollo. Quelquefois, je dis, Tintin n'était pas écologiste. Tintin est allé sur la Lune avant Armstrong, enfin, en tout cas en bande dessinée. Mais quand Hergé représente, met en scène ces héros qui regardent la Terre depuis le télescope qui est dans la célèbre fusée d'Hergé, ils disent, ah voilà, c'est la Terre, elle est belle. Ils n'ajoutent pas, elle est fragile. Enfin, ils n'ont pas du tout le discours de Thomas Pesquet. Et ça, il a fallu y aller. Pour vraiment que ce discours soit élaboré.
Y aller, et puis aussi, grâce aux différents instruments qui tournent autour de la Terre, se rendre compte de l'évolution de la Terre.
Absolument, il ne faut pas oublier tout le travail des scientifiques à travers leurs satellites. Mais comme vous venez de le rappeler, vous-même, vous avez offert un témoignage d'un astronaute. Vous ne nous avez pas envoyé quelques chiffres.
C'est vrai.
Qui sont... D'ailleurs, c'est ce que dit Thomas. Il dit, des chiffres, on peut en donner. Mais l'expérience visuelle, sensorielle, une expérience extraordinaire, justement, qui sort de nos... Ça, c'est un effet. Alors, c'est vrai que et on a entendu là-haut tout à fait au début de votre émission le célèbre mot d'Armstrong, hein, c'est un petit pas pour un homme. Nous pensons tous à un pas en avant, et c'est vrai que ça a été un pas en avant, et en même temps, c'est un pas de côté par rapport à la Terre. Et on met un pas de côté, on regarde la Terre, et là, les astronautes des missions Apollo, à partir d'Apollo 8, ont ce sentiment de cette singularité, de cette fragilité. Au même moment, mais ça n'a pas un lien de cause à effet direct, au même moment, souvenons-en, c'est la naissance des mouvements environnementalistes, écologistes, et de ce qui... Et tout ça va se combiner. Les images des missions Apollo vont devenir des véritables icônes de cette prise de conscience.
Dans ce contexte de prise de conscience, de changement climatique, Francis Rocard, est-ce qu'il faut continuer à développer la conquête spatiale? Beaucoup en doute, hein.
Alors, d'abord, moi j'utilise pas le mot de conquête. Mmh. On ne conquiert rien du tout. On explore... Pour la connaissance scientifique, en tous les cas, c'est la démarche des missions robotiques telles que Curiosity en ce moment sur Mars.
Alors, est-ce qu'il faut continuer à explorer l'espace?
Oui. Ah oui, oui. Je pense que on est dans une situation où il faut à la fois explorer l'espace et se préoccuper de ce qui se passe sur Terre. Mmh. Les programmes automatiques ne sont pas si chers que ça. Et je pense que de ne pas le faire, c'est se fermer une porte de la connaissance qui serait très dommageable. À court terme, ça n'a aucune conséquence. Mais je pense que sur le long terme, ça a une conséquence importante d'un peu l'obscurantisme. On se referme sur soi-même et puis finalement, on refuse de comprendre. Donc non, l'homme a toujours voulu comprendre. Il y a une énorme attente et une énorme curiosité des gens sur ce qui se passe sur une planète ou telle mission. Donc la connaissance est importante de maintenir.
Peu importe la pollution, parce que les critiques portent sur le coup, on va y venir.
Non, il n'y a pas de pollution. Attendez, il ne faut pas confondre les débris et la pollution. Une fusée, ça pollue un petit peu au lancement, oui. Mmh. Mais comparativement à tous les avions qui volent, c'est quand même très faible. Sauf peut-être pour les gens de Kourou qui pourraient se... Mais c'est tout. Après, il y a le problème des débris. Mais ça, c'est autre chose. Les débris, c'est les satellites de télécom. Et c'est le fait que, avant, on s'en souciait pas. Quand on a un étage supérieur du fusée qu'on abandonne en orbite, il peut exploser. C'est arrivé, même un étage Ariane. De un gros module, vous en faites 10 000 débris. Et ça, c'est dramatique. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience de plus jamais ça. C'est-à-dire que cet étage supérieur, on va le passiver pour surtout pas qu'il explose. Et il va redescendre tout seul. Donc, il faut éviter les débris. Ce qu'ont fait les Indiens, c'est pas très malin. Récemment, ils ont pulvérisé un de leurs satellites, donc ils ont fabriqué 500 débris. Quand on dit 500, c'est ceux que le NORAD américain détecte, supérieur à 10 cm. Les Chinois ont fait la même bêtise, 1000 débris en plus. On le voit sur la courbe, on voit la débris qui augmente. Donc ça, il faut pas jouer à ce genre de jeu qui est dangereux, parce que si vous avez vu le film Gravity, qui est un peu exagéré, néanmoins, c'est le sujet. C'est-à-dire d'un débris, vous en créez, qui va créer des collisions en chaîne.
Parmi les critiques adressées, vous l'évoquiez, Francis Rocard, à cette exploration spatiale, il y a celle du coût. Cela coûte cher d'aller dans l'espace, entend-on. Est-ce que c'est une réalité, Jacques Arnoux?
Bien évidemment que ça coûte de l'argent, parce qu'aucune activité humaine n'est proprement gratuite.
Alors est-ce que
émettre une émission de radio, organiser un concert, pollue aussi d'ailleurs, fait des débris, etc. Écoute, après, la question c'est quel prix suis-je prêt à mettre dans telle ou telle activité? Et sans rentrer dans des grandes élucubrations philosophiques, il faut se dire, mais l'exploration spatiale dont nous parlons aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres manières de la faire? Il y a plusieurs manières de pratiquer l'exploration, mais est-ce qu'il y a autre chose que l'exploration spatiale? Et là, c'est quand même quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de l'humanité, ce moment auquel nous arrivons. Nous sommes en train d'acquérir des connaissances que nous n'avions jamais, et la seule manière de le faire, c'est la manière dont le décrit Francis Rocard. Donc c'est quelque chose de tout à fait original. Alors, pour autant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut pas être déraisonnable. Il faut faire ça avec raison. Il faut y mettre un argent convenable, et puis savoir quand c'est le bon moment de le faire. Ne pas accepter de mettre une petite partie de nos budgets, parce que sincèrement, il faut pas prendre un budget comme ça, il faut le comparer aux autres. Et là, on se rend compte que c'est des budgets tout à fait comparables à d'autres, inférieurs à d'autres. Et qu'est-ce que nous y gagnons? En quoi nous grandissons? En quoi nous honorons ce que j'expliquais tout à l'heure? Cette dimension particulière de l'être humain qui est sa curiosité et son imagination. Et quand vous parliez tout à l'heure de survie, il n'y a pas de survie s'il n'y a pas d'imagination et de curiosité non plus. Donc nous devons aussi alimenter cette capacité humaine, pas seulement pour nous faire peur, Ça, c'est l'instinct de survie. Mais aussi pour nous faire rêver à d'autres mondes, y compris sur Terre, que celui sur lequel nous vivons aujourd'hui. Mmh. Et là, l'exploration peut le faire.
Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Francis Rocard, vous êtes d'accord avec ce que dit Jacques Arnoux sur le coût de l'exploration spatiale?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que si on regarde, par exemple, en Europe, les dépenses dans le domaine spatial, ça correspond, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quelques euros par habitant et par an. Voilà. Mmh. Bon, comme l'a dit très bien dit Jacques, c'est de l'argent, mais il faut le comparer à d'autres dépenses. Néanmoins, je vais rajouter une chose que n'a pas dit Jacques, c'est il y a quand même un ratio qui est entre 10, 100, voire 1000 entre les missions automatiques et les missions habitées. Parce qu'une mission habitée, c'est pas une mission, c'est un programme. Apollo, ça a été un programme qui devait aller jusqu'à Apollo 20 et qui s'est arrêté à Apollo 17. Et donc vous voilà, il faut comparer le programme à une mission comme Curiosity qui coûte, oui, 2,4 milliards de dollars. C'est quand même beaucoup là. C'est une grosse mission. Il y en a pas, elles sont pas toutes si chères. Mais j'observe qu'en Europe, il n'y a pas une volonté forte de développer les vols habités. Il suffit de regarder les chiffres.
Au-delà de tout ce qu'on a dit sur l'aspect scientifique, aller voir si il y a eu de la vie sur dans différents endroits du système solaire, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aller en allant dans l'espace? Est-ce qu'on peut aller faire du tourisme? Certains l'évoquent. Aller exploiter certaines planètes, des astéroïdes. Vous y croyez sérieusement? Alors, à ça, Francis Rocard?
Le tourisme, oui. Et d'ailleurs, c'est ce que fait Bezos pour beaucoup. C'est des fusées relativement simples, pas très puissantes, et il y a un marché. Si vous avez 50 000 dollars, vous pouvez, peut-être maintenant ça monte à 200 000, mais voilà, je pense qu'il y a un marché. Ça sera un marché de VIP, hein, faut être clair, mais les gens qui développent ces technologies pensent que tout ça est viable. On verra. L'exploitation des ressources, c'est un autre problème. Il y a trois grandes catégories de ressources. Il y a l'eau, je dirais les minerais et l'hélium-3. Bon, l'eau, je dirais que c'est un besoin. La NASA en a besoin. Donc la NASA va payer pour ça. Si on peut s'apercevoir que extraire l'eau de la Lune, ça coûte moins cher que de la porter de la Terre, ça vaut la peine. Donc, il y a une balance à faire. Et donc la NASA va investir là-dedans et il va y avoir des missions pour démontrer la faisabilité. Aujourd'hui, rien n'est démontré. Les ressources, je dirais, les minerais, c'est beaucoup plus aléatoire. Il y a des gens qui s'excitent là-dessus, il y a des start-up, pas mal tombent en faillite. Et aujourd'hui, on cherche la perle rare, c'est-à-dire qu'on a 800 000 astéroïdes dans nos fichiers. Est-ce qu'il y en a un qui serait extraordinaire pour trouver, je sais pas, du rubidium, du tantal, du titane? Bon, aujourd'hui, il y en a pas. Je rappelle quand même qu'on a des météorites métalliques dans les collections, on sait exactement ce qu'il y a dedans. C'est du fer et du nickel. Ça n'a strictement aucun intérêt en termes de business. Ouais. Donc c'est pas avec du fer et du nickel. Et le troisième, c'est l'hélium-3, mais ça c'est une histoire beaucoup plus lointaine, c'est la Lune, et c'est pour la deuxième moitié de ce siècle, pour faire la fusion thermonucléaire. Donc c'est pas pour tout de suite.
Jacques Arnoux, rapidement, il nous reste une petite minute.
Bien, en attendant, nous pouvons aussi aller nous adresser à Francis, et qui nous fera écouter, parce que pour l'instant, nous sommes justement à la radio, on n'a pas pu voir des images, nous parlait beaucoup d'images de Mars.
Il faut aller sur le site de France Culture.
Mais nous pouvons aussi, aujourd'hui, entendre le vent martien, ou entendre je crois le vent sur Titan aussi, il y avait c'est-à-dire que nos robots sont pas aussi intelligents, pas aussi poètes que nous les humains, mais les scientifiques développent des robots qui aujourd'hui ne se contentent pas de nous envoyer quelques très belles images, mais aussi nous faire découvrir d'autres manières. On peut être touriste à distance, et je vous avoue que la première fois que j'ai entendu le vent martien, moi ça m'a fait quelque chose. J'étais un petit explorateur.
Mais en tout cas, ça nous fait tous toujours rêver de parler d'espace et d'exploration avec vous. Merci à tous les deux. Francis Rocard, astrophysicien. Jacques Arnoux, historien des sciences, théologien chargé des questions éthiques au CNES. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été. Marguerite Caton, Léa Capuano, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation Thomas Jost, mise en onde Adèle Caglar. Pour réécouter cette émission, l'application Radio France, le site franceculture.fr. Restez avec nous dans une minute, Matière à penser avec Frédéric Worms.